RFI 6h à Paris, 5h à Bamako et en temps universel.
Andréane Mélard.
L'heure du journal, bonjour Gaëtan Plenet.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
La peine maximale requise en France contre Dominique Pélicaud.
Le parquet réclame 20 ans de prison contre cet homme jugé pour avoir drogué, violé et fait violer son épouse par des dizaines d'autres hommes, eux aussi jugés. Jugé Donald Trump ne le sera pas dans l'immédiat en tout cas. Hier, la justice américaine a réclamé la suspension des poursuites contre le président élu pour sa tentative de renversement du résultat de l'élection de 2020, celle qu'il avait perdue face à Joe Biden. La perspective d'une trêve au Liban, le cabinet de sécurité israélien doit se prononcer aujourd'hui sur un accord qui prévoit notamment un cessez-le-feu de 60 jours avec le Hezbollah. Et puis dans ce journal également, la chaîne malienne Joliba TV qui cesse d'émettre à partir d'aujourd'hui après le retrait de sa licence.
Les réquisitions vont se poursuivre aujourd'hui en France au procès des viols de Mazan.
Au procès Pélicaud, du nom de cet homme, Dominique, accusé d'avoir drogué son épouse Gisèle aux anxiolytiques et de l'avoir fait violer au domicile conjugal par des dizaines d'hommes recrutés sur Internet. 51 accusés au total devant la cour criminelle du Vaucluse et le parquet a déjà annoncé hier ses réquisitions contre 21 d'entre eux. De la prison à chaque fois, avec des peines allant de 4 à 20 ans. La plus lourde pour le principal accusé, Dominique Pélicaud, qui n'a jamais caché sa responsabilité. Mais certains avocats de la défense jugent ces réquisitions très lourdes, Tanita Fallet.
La peine maximale, 20 ans de réclusion criminelle pour Dominique Pélicaud. Ce n'est pas une surprise pour Maître Zavaro, son avocate.
C'est justifié, je le reconnais, au regard de la gravité des faits, de la lourdeur des faits qui lui sont reprochés. Mais ça reste quand même malgré tout des réquisitions choc et des réquisitions lourdes, encore une fois, pour un homme qui va faire 72 ans dans quelques jours.
Une réquisition lourde également pour Jean-Pierre M, 17 ans de réclusion criminelle. Lui n'est pas accusé pour viol sur Gisèle Pélicaud, mais pour avoir reproduit le mode opératoire de Dominique Pélicaud sur sa femme. Il est l'autre gros accusé du dossier, son avocat Maître Gontard.
Le parquet requis avec le sabre de l'opinion publique dans le dos. C'est l'opinion. Le parquet, normalement, il est là pour requérir au nom de la société. Mais là, il requiert au nom de l'opinion. Et je pense que quand on requiert au nom de l'opinion, on n'est pas forcément dans la justesse.
Un avis partagé par son confrère, Maître Le Maire. 10 ans de réclusion criminelle ont été requis contre son client, malgré des doutes sur la matérialité des faits.
Parce que pour la plupart d'entre eux, le parquet reconnaît que c'est ou des tentatives ou qu'il n'y a pas de pénétration. Requérir 10 ans, nous ne pouvons pas, nous en défense, l'accepter.
Ce sera d'ailleurs plaidé devant la cour à partir de mercredi. Tanita Fallet, Avignon, RFI.
Et parole à la défense jusqu'au 13 décembre pour un verdict attendu une semaine après au plus tard. Et ces réquisitions ont donc commencé à tomber. Hier, en pleine journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le Premier ministre français Michel Barnier en a profité pour annoncer que des kits de détection de soumission chimique au cœur donc de ce procès Pélicaud seraient bientôt remboursés dans plusieurs départements du pays à titre expérimental. Le dispositif permettant aux femmes victimes de violences de déposer plainte dans un hôpital va lui être élargi.
Après sa victoire dans les urnes, celle face à la justice pour Donald Trump.
Oui, provisoirement en tout cas, puisqu'une juge fédérale américaine a validé il y a quelques heures l'arrêt des poursuites contre le président élu dans deux dossiers distincts. Le premier pour tentative illégale d'inverser les résultats de l'élection de 2020, l'autre pour rétention de documents classifiés après son départ de la Maison Blanche. Alors ça ne veut pas dire que Donald Trump est blanchi, ni même qu'il échappera à de nouvelles poursuites après son deuxième mandat, mais ça n'en demeure pas moins une vraie victoire pour le républicain, Guillaume Nodin.
C'était l'affaire judiciaire la plus grave à laquelle était confronté Donald Trump. Il y était question de son plan pour empêcher la certification de l'élection de Joe Biden en 2020, ainsi que de son rôle dans la préparation de l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Le procureur spécial Jack Smith a demandé lui-même l'annulation des charges en vertu de la politique du département de la justice de ne pas poursuivre les présidents en exercice. La juge en charge de l'affaire accède à la demande en laissant la porte ouverte à une éventuelle mais improbable relance de l'affaire quand Donald Trump ne sera plus président. Quand Trump revendique une victoire totale, il n'a pas tort. Au cours de la procédure, le président a aussi gagné la reconnaissance par la Cour suprême d'une immunité présidentielle qui n'existait pas avant. Le procureur demande aussi l'abandon des poursuites dans le dossier des documents emportés puis saisis à Mar-a-Lago. L'affaire est déjà suspendue par une décision d'une juge nommée par Donald Trump. Elle fait l'objet d'un appel, mais il n'y a aucune raison que l'issue soit différente. En fin de semaine dernière, Donald Trump avait déjà obtenu la suspension indéfinie de sa condamnation dans l'affaire Stormy Daniels. Daniels. Quant au dossier sur sa tentative de renverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020 en Géorgie, il n'y a même pas de procureur en charge du dossier. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
À Donald Trump qui prendra ses fonctions le 20 janvier prochain. On a d'ailleurs appris que l'actuel président Joe Biden assisterait à la cérémonie. Et son successeur en dit plus sur les premières mesures économiques qu'il compte prendre une fois revenu à la Maison Blanche. Une augmentation des droits de douane de 25% sur tous les produits importés du Mexique et du Canada. 10% de plus pour ceux arrivant de Chine. Des hausses qu'il justifie par les crises liées aux opiacés et à l'immigration. Personne ne gagnera une guerre commerciale, réagit Pékin ce matin quand le Canada rappelle être essentiel pour l'approvisionnement énergétique des États-Unis.
Les États-Unis qui l'affirment, un accord est proche au Liban.
Un accord de cessez-le-feu de 60 jours entre l'armée israélienne et le Hezbollah libanais. Le cabinet de sécurité israélien pourrait l'accepter dès aujourd'hui. Le texte proposé par les Américains prévoit un retrait des deux camps du sud du pays pour laisser la place à l'armée libanaise. Et un comité international serait mis sur pied pour s'assurer de la bonne application de cet accord. Qui dit arbitrage international dit, en général, implication des Nations Unies. Pas de confirmation de ce côté-là pour l'instant, mais ça paraît plutôt probable, Karine Auton.
L'ONU n'est absolument pas impliquée dans la négociation de cessez-le-feu au Liban. Il s'agit clairement d'une initiative de Washington qui travaille en solo, mais on peut lui prédire un rôle dans l'application de cet accord s'il était conclu. D'autant qu'hier, justement, la force onusienne au Liban, la FINUL, a exprimé sa profonde inquiétude à propos des attaques meurtrières d'Israël contre l'armée libanaise. Pour que la FINUL puisse surveiller que l'accord de cessez-le-feu soit bien appliqué, il faudrait que son mandat soit modifié en ce sens par le Conseil de sécurité. C'est ce qui s'est passé en 2008, alors que la résolution 1701 a fait se déployer les casques bleus aux côtés de l'armée libanaise dans le sud du pays. Si le nouveau mandat était plus agressif et que la communauté internationale demandait aux soldats de la FINUL de désarmer d'autres groupes armés, par exemple, il faudrait alors augmenter leurs ressources. Une autre solution pourrait être de créer une nouvelle entité sous l'égide du Conseil de sécurité, comme ce qui a été fait en Haïti avec la mission multinationale d'appui à la sécurité, ou par la CDAO au Libéria, une piste plus plausible étant donné comme Israël ne porte pas la FINUL en haute estime. Karine Auton, New York, RFI.
Et en attendant l'adoption de cet accord de trêve, les frappes israéliennes se poursuivent au Liban. Elles ont fait au moins 31 morts hier selon le ministère libanais de la Santé. C'est la pire vague de déplacement observée en Haïti depuis 2 ans. L'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, parle de plus de 40 000 personnes forcées à fuir dans la métropole de Port-au-Prince en l'espace de seulement 10 jours. La faute aux violences de gangs qui contrôlent toujours une grande partie de la capitale haïtienne. Un couvre-feu instauré à Solenzo, dans le nord-ouest du Burkina Faso, après la mort d'un chef de canton hier en marge d'une manifestation contre la dégradation de la situation sécuritaire. Les autorités administratives soutenues par ce chef de canton avaient réclamé le report de la mobilisation. Elle a finalement bien eu lieu et elle a dégénéré en scène de violence.
Le Burkina qui avait demandé au Mali, son allié au sein de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, de fermer la chaîne Joliba TV.
Et elle cesse d'émettre à partir d'aujourd'hui, décision de la Haute Autorité malienne de la communication. Il y a 2 semaines, lors d'une émission de débat, un invité avait jugé que la dernière affaire de supposé coup d'État déjouée par les autorités burkinabées n'était pas crédible. Issa Kaounjim avait été emprisonné dans la foulée et sera jugé en février pour offense commise publiquement envers un chef d'État étranger. Quant à Joliba TV, elle est donc déjà condamnée, mais ni la chaîne ni les organisations professionnelles maliennes de la presse ne comptent en rester là, David Bachet.
Ils rendront compte un jour devant le peuple, prédit avec colère un dirigeant de Joliba TV. C'est une décision politique. Ils veulent uniformiser la pensée dans l'AES, poursuit cette source. Nous préférons perdre notre licence que d'être une caisse de résonance. Tous les médias maliens sont menacés. Une position partagée par la Maison de la Presse, qui rassemble les organisations de journalistes du Mali, et dont une délégation a rencontré hier le collège de la Haute Autorité de la Communication du Mali, pour lui demander de revenir sur cette décision jugée excessive. Une réponse rapide aurait été promise, mais c'est bien ce mardi que le signal de Joliba TV est censé être coupé. Le président de la HAC, Gaoussou Koulibaly, n'a quant à lui pas souhaité répondre à RFI, interdite au Mali depuis plus de 2 ans et demi. Nous ne nous tairons pas, préparez vous au réveil du peuple. Vive la liberté, vive Joliba, ont réagi ouvertement plusieurs journalistes maliens. La Maison de la Presse prévoit de demander à tous les médias nationaux de rediffuser l'émission incriminée, en signe de protestation. La quasi-totalité des partis politiques maliens rassemblés au sein de la déclaration du 31 mars demande aux autorités de reconsidérer une mesure liberticide qui ternit l'image du pays.
À David Bachet.
Les signaux sont de plus en plus inquiétants pour l'industrie européenne.
Les annonces de plans sociaux se multiplient. ces derniers jours, c'est la filière sidérurgique qui suscite l'inquiétude en France, mais aussi en Allemagne. Nathanaël Vitran, cette crise de l'acier européen, elle s'illustre par deux annonces. En Allemagne, d'abord avec ThyssenKrupp, le géant de l'acier, qui veut supprimer ou transférer 11 000 postes d'ici la fin de la décennie.
Oui, soit plus d'un tiers de ses effectifs. Un séisme qui confirme la mauvaise santé de l'industrie allemande. En France, c'est un autre géant du secteur, ArcelorMittal, qui menace de ne pas faire les travaux de décarbonation promis sur son site de Dunkerque. Le numéro 2 mondial de l'acier devait investir 1,8 milliard d'euros pour remplacer les hauts fourneaux historiques au charbon par des fours électriques. L'État français s'était engagé à mettre 850 millions d'euros sur la table. Mais avant d'investir, ArcelorMittal demande, exige même de Bruxelles, des garanties. Le groupe veut des mesures pour protéger l'acier européen face à ce qu'il appelle une concurrence extra-européenne déloyale. La nouvelle fait trembler à Dunkerque, où l'acier fait vivre un habitant sur cinq. Les sidérurgistes européens sont en fait pris en étau. D'un côté, la demande est en baisse, du fait notamment de la crise du secteur automobile. De l'autre, le marché est saturé par l'acier bon marché venu de Chine, le tout poussant les prix vers le bas. Ajoutez-y un prix de l'énergie qui, lui, a explosé depuis la guerre en Ukraine, et l'acier européen n'apparaît plus du tout compétitif.
Nathanaël Vitran. Les députés français doivent débattre aujourd'hui de l'accord de libre-échange négocié entre l'Union européenne et les pays latino-américains du Mercosur. Les agriculteurs français sont toujours mobilisés contre cet accord. Ils y voient une forme de concurrence déloyale. Le gouvernement français est lui aussi opposé au texte actuel qui prévoit notamment de réduire les droits de douane dans plusieurs secteurs agricoles, notamment sans que ces produits ne soient pour autant soumis forcément aux normes environnementales en vigueur en France. La France où l'on apprend que la maire de Paris, Anne Hidalgo, ne se représentera pas en 2026. Elle l'annonce dans une interview accordée à nos confrères du Monde. Pas de troisième mandat pour elle, dit-elle. C'est une décision que j'ai prise depuis longtemps.
On termine, Gaëtan, par du cinéma et la sortie demain en France de Grand Tour.
Un voyage en Asie porté par le réalisateur portugais Miguel Gomes. Le portrait d'un fonctionnaire de l'Empire britannique poursuivi par sa promise, Elisabeth Le Carré.
Le Grand Tour, c'était au 19e siècle, le voyage entrepris par de riches Britanniques en Asie, de l'Inde à la Chine en passant par la Birmanie. Mais du tourisme, Molly n'a que faire. Si l'héroïne de Miguel Gomez fait ses valises, c'est pour partir à la recherche de son fiancé, aux abonnés absents depuis des mois. C'est donc sous les auspices d'une course-poursuite amoureuse, autant que d'un voyage aux contours très exotiques que s'ouvre le film. Miguel Gomez aime à mélanger les genres et les tonalités. Et Grand Tour nous fait voyager entre noir et blanc et couleur, de l'Empire britannique au monde contemporain. C'est romantique, extravagant, comique, lorsque Molly, décidément redoutable, commence contre toute attente à rattraper le fuyard. Mais son personnage donne corps aussi à une certaine mélancolie fin de siècle, le sentiment que le monde est un endroit vaste et déroutant, où les espoirs et les rêves peuvent s'effondrer à l'image des vieux empires occidentaux.
Elisabeth Le Carré du service culture de RFI.
Et c'était le journal de Gaëtan Plenet. 6h13 à Paris, RFI Matin. Ravi de vous retrouver. Nous sommes le mardi 26 novembre et comme chaque jour jusqu'à 9h, on va faire ensemble un tour du monde de l'actualité qui nous emmènera ce matin en Chine dans une poignée de secondes, mais aussi aux États-Unis, au Bali, en France avec le débat sur l'accord UE-Mercosur aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ce sera notre dossier à 8h. Ce matin, nous irons aussi au Soudan où la guerre, mais aussi la faim font de nombreuses victimes.
Mes deux filles sont mortes de faim. La première de 12 ans, il y a 4 mois. La seconde d'un an et demi est morte il y a une semaine. Nous n'avons rien à manger.
Ce reportage signé Elliot Brachet a retrouvé à 8h45 tout à l'heure. Dans la bande de Gaza aussi, les civils sont livrés à eux-mêmes. Surtout dans le nord de l'enclave, sur place, les habitants s'improvisent secouristes. Pas le choix.
La jeune fille qui a appelé m'a dit qu'elle était la seule à être consciente. Elle criait et pleurait. La première chose à faire était de la calmer afin qu'elle puisse aider sa famille.
Un sujet signé Sami Boukhelifa, écouté tout à l'heure dans le journal de 7h. Sami, qui sera aussi en direct avec nous à 8h pour évoquer ses possibles avancées vers un cessez-le-feu au Liban. En tout cas, la porte semble ouverte. Israël doit se prononcer aujourd'hui sur ce plan. RFI Matin, ce sont nos journaux. Chaque demi-heure, vous le savez, mais aussi nos invités. Ce matin, le député et patron de l'UDPS, Augustin Kabouya, également l'universitaire Hicham Alaoui. On y revient dans un instant, à suivre aussi ce matin. Comme chaque jour, la presse, le sport, vous avez une partie du programme. On peut commencer. Personne ne gagnera une guerre commerciale, déclaration ce mardi d'un porte-parole de l'ambassade de Chine aux États-Unis dans la foulée de la confirmation hier par Donald Trump que l'une de ses premières mesures à son arrivée à la Maison-Blanche sera d'augmenter de 10% les droits de douane sur tous les produits venant de Chine, en plus des taxes déjà en vigueur ou que le président américain élu pourrait ajouter. Bonjour Cléa Broders.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Envoyé spécial permanente de RFI en Chine. Cléa, vous êtes en direct avec nous. Alors cette confirmation faite hier par Donald Trump, ce n'est pas une surprise. Il l'avait déjà annoncé lors de sa campagne. Comment la Chine se prépare à ces mesures à venir ?
Alors elle le fait de plusieurs façons. Pékin renforce activement ses relations commerciales avec les pays du Sud et l'Europe afin de réduire sa dépendance à l'égard du marché américain. Cela passe par la signature de nouveaux accords commerciaux et la participation à des sommets internationaux visant à promouvoir le commerce multilatéral. Aussi, en stimulant la demande intérieure, la Chine peut ainsi atténuer l'impact de la réduction des exportations et ses politiques qui visent à augmenter les dépenses de consommation et à investir dans des projets d'infrastructure sont au cœur de cette stratégie. Il y a aussi l'initiative Made in China 2025 qui se concentre essentiellement sur l'avancement des industries de haute technologie afin de réduire la dépendance à l'égard des technologies étrangères et ainsi de faire remonter la chaîne d'approvisionnement. Et enfin, la Chine a exprimé sa volonté de dialoguer avec les États-Unis pour régler les différends commerciaux afin de trouver des solutions qui seraient mutuellement bénéfiques et afin d'éviter une nouvelle escalade.
Cléa, des entreprises chinoises ont déjà pris des mesures pour contrer ce type de droits de douane.
Exactement, elles anticipent les nouvelles taxes douanières prévues par Donald Trump en délocalisant leur production vers d'autres pays. L'idée, c'est de faire fabriquer au Vietnam, en Malaisie ou en Thaïlande pour continuer à exporter vers les États-Unis tout en contournant les taxes. Alors cette stratégie n'est pas nouvelle. Depuis 2016, des géants du solaire comme par exemple LG, qui est le troisième fabricant mondial de panneaux photovoltaïques, ont investi massivement en Asie du Sud-Est. LG, par exemple, produit en Malaisie, au Vietnam et a même lancé un projet aux États-Unis. Mais cette tactique pourrait pousser Washington à réagir. Des législateurs américains veulent empêcher ces manœuvres en imposant des restrictions aux produits venant de pays tiers. Donc la nouvelle bataille commerciale se profile bel et bien à l'horizon.
Donald Trump avait prévenu qu'il imposerait des droits de douane allant jusqu'à 60% à la Chine. Quelles conséquences cela pourrait entraîner ?
Les économistes ont prévenu que l'imposition par Trump de droits de douane punitifs sur les importations des partenaires commerciaux des États-Unis ferait grimper l'inflation dans la plus grande économie du monde, car les coûts auraient surtout des conséquences avant tout sur les consommateurs américains. Et cependant, ça pourrait aussi affecter l'économie mondiale dans son ensemble. Le Fonds monétaire international a averti que ces droits de douane pourraient réduire la croissance économique mondiale de 0,5%, ce qui pourrait entraîner une récession mondiale. La Chine et d'autres pays concernés pourraient imposer leurs propres droits de douane sur les produits américains, ce qui entraînait à nouveau une escalade qui pourrait perturber davantage le commerce mondial et la stabilité économique. L'incertitude et l'éventualité d'une baisse de bénéfices des entreprises pourraient aussi entraîner plus de volatilité sur les marchés financiers mondiaux et ça pourrait affecter les investissements et surtout la confiance économique.
Merci Cléa. Cléa Broders, en direct de Pékin. Donald Trump qui par ailleurs a vu hier l'abandon des poursuites contre lui pour ingérence électorale. On y revient dans le prochain journal international. Ce sera à 7h et tout à l'heure à 7h20, ce sera notre grand invité international de la matinée. Bonjour Arnaud Pontus.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Et ce mardi, vous recevez l'universitaire Hicham Alaoui, auteur de « Islam et démocratie, comment changer la face du monde arabe » publié aux éditions du Cherche Midi.
Oui, Hicham Alaoui est membre de la famille royale du Maroc. Il est le cousin germain du roi Mohamed VI, une voix critique du régime. On l'a surnommé le prince rouge ou le prince rebelle. Il y a 10 ans, il avait publié « Journal d'un prince banni ». Aujourd'hui, il livre une réflexion, un essai sur les échecs des printemps arabes de 2011. Parce que Hicham Alaoui est enseignant aux États-Unis depuis 2002, il travaille au sein de l'Université de Californie. Dans son livre, il explique comment la démocratisation au Moyen-Orient et en Afrique du Nord est possible. Il nous dit comment ces pays peuvent sortir des régimes autoritaires et des pouvoirs autocratiques. Il appuie ses réflexions sur les exemples de la Tunisie et de l'Égypte, mais on ne manquera pas de l'interroger sur son pays, bien sûr, le Maroc. À tout à l'heure.
À tout à l'heure, Arnaud, cet entretien. Tiens, ce sera à 6h20, temps universel. En France, quelques jours après le démarrage de la nouvelle campagne des Restos du Cœur, cette association qui vient en aide aux plus démunis et qui a pointé encore cette année qu'ils sont toujours plus nombreux à frapper à sa porte et fait particulièrement inquiétant. De plus en plus de tout petits bénéficient de l'aide des Restos du Cœur. Au centre de Paris, l'association Restos du Cœur Bébé est unique en son genre car elle reçoit les bénéficiaires essentiellement des mamans africaines sans ressources sur inscription toute l'année avec une permanence le mardi et le jeudi. La structure compte 120 familles inscrites et reçoit environ 35 mamans par semaine. Laurence Théo s'est rendue sur place.
Stylo à la main, Catherine, responsable de l'association, est à son bureau. Elle reçoit les mamans une à une et sur rendez-vous, car cette annexe des Restos du Cœur ne se contente pas de donner de la nourriture.
On fait de l'accompagnement des familles et non pas d'une simple distribution. Ce qui veut dire que toutes les familles qui viennent ici sont reçues en entretien individuel par une bénévole. Ça dure à peu près 20 minutes, une demi-heure. On s'enquiert de leur logement, où elles en sont de leurs papiers. Et uniquement en fin d'entretien, on fait la distribution de lait, de couches, de petits pots si l'enfant est en âge. On donne de l'hygiène et on donne des vêtements.
Ce sont surtout des mamans avec leur bébé dans les bras qui poussent la porte. Une fois inscrites, elles reviendront toutes les 3 semaines.
C'est des mamans qui, en règle générale, comme vous pouvez le voir, sont d'origine africaine. J'ai pratiquement 60% de mamans de Côte d'Ivoire. Alors, les critères pour les restos bébés, c'est les gens qui n'ont pas de papier et qui ont zéro revenu. Et pour les gens qui ont des papiers, celles qui ont moins de 300 euros de revenus. Nous, la majorité des mamans, c'est des femmes étrangères.
Kouamé a un peu plus d'un an. Il s'accroche à la jambe de sa maman. Mariam, 32 ans, vit dans la grande précarité.
J'ai besoin des couches et le lait, avec des vêtements aussi. Honnêtement, je n'arrive pas à les acheter. Je n'ai aucune ressource. Je cherche un travail, mais si je n'ai pas de papier, c'est un peu compliqué.
Si dans ce local, l'ambiance est chaleureuse, tout ici est très organisé, à l'image de Catherine, humaine mais rigoureuse.
Moi, je ne veux pas que les mamans se servent, parce que si une maman prend 3 boîtes de lait, elle a peut-être la troisième, elle n'aura plus rien. Ils sont reçus dans l'autre pièce, et dans cette autre pièce, je vais vous montrer, on a des placards dans lesquels il y a la nourriture, mais on n'est pas un supermarché, hein. Il faut quand même être clair et net là-dessus. Donc ça, c'est le placard des laits. On a un placard pour les couches, numéro 3, numéro 4, etc.
Ça coûte très cher, hein, tout ça.
Très très cher. Je voulais une fois faire le total de ce qu'on donnait à une maman. Parce que quand vous donnez une boîte de lait qui coûte dans le commerce, mettons 12 euros minimum, un paquet de couches, que vous donnez du lait de toilette, que vous donnez les petits pots, je ne sais pas à combien on est, mais ça fait beaucoup.
Virginie, bénévole, explique que le Resto du Cœur bébé ne peut pas toujours répondre à la demande en forte augmentation.
Vous avez les mamans qui ont traversé Paris avec leurs poussettes sous la pluie et qu'on n'a pas assez de choses à leur donner, on a mal au cœur, nous.
Qu'est-ce qui manque en ce moment ?
Produits d'hygiène, énorme, produits d'hygiène pour les bébés.
Au moment de partir, on croise le petit Kouamé, très fier de porter un nouvel anorak.
Un reportage signé Laurence Théo. C'est le dernier cycle de négociations pour tenter de parvenir à un traité mondial contre la pollution plastique et ça a démarré hier à Busan, en Corée du Sud. Objectif affiché donc, mettre fin à la plastification de la planète car selon les scientifiques, d'ici à 2050, il pourrait y avoir autant de plastique que de poissons dans les océans. Mais au-delà de cette pollution massive, quels sont les effets du plastique sur la santé? C'est notre question d'environnement du jour. Bonjour Igor Strauss.
Bonjour André-Anne, bonjour à tous.
Les premiers effets sont liés à la fabrication même du plastique.
Et oui, le plastique est un polymère, c'est-à-dire une chaîne de molécules à laquelle on ajoute des substances chimiques ou des additifs pour lui donner des propriétés fonctionnelles. On peut ainsi rendre le plastique plus souple, plus résistant ou ininflammable. Mais l'ajout de ces substances chimiques a des conséquences sur la santé. Muriel Mercier-Bonin, directrice de recherche INRAE au laboratoire Toxalim de Toulouse.
Il y a 16 000 composés qui sont présents dans les plastiques en termes de substances chimiques, mais de manière plus générale, on ne connaît la dangerosité de ces additifs que pour 25% d'entre eux, comme le bisphénol A ou les phtalates. Donc là, leurs effets négatifs pour la santé, ils ont été démontrés. Mais en fait, ces additifs, ça ne représente pas en fait l'ensemble des substances chimiques qui peuvent être incorporées et présentes dans les plastiques.
Alors, le bisphénol A et les phtalates sont des perturbateurs endocriniens que l'on retrouve notamment dans les plastiques alimentaires et qui peuvent provoquer, eh bien, des troubles de la reproduction, l'infertilité, des troubles du métabolisme comme l'obésité ou le diabète ou encore, eh bien, un dysfonctionnement de la thyroïde. Le problème, c'est que l'étude des effets du plastique sur la santé est très récente, 2015, et qu'on ne connaît que certains de ces produits chimiques.
Et il faudra donc attendre d'autres études pour avoir un tableau plus précis. Mais Igor, d'autres effets du plastique sont liés à sa décomposition.
Exactement. On parle alors de micro ou de nanoplastiques, de minuscules particules que l'on retrouve partout, dans l'eau, dans l'air, dans les aliments. Des scientifiques en ont retrouvé dans le placenta, dans le sang ou dans le lait maternel. Mais en se décomposant, ces microplastiques vont entrer en contact avec d'autres polluants et provoquer ce qu'on appelle l'effet cocktail, une accumulation de produits toxiques qui décuplent leur nocivité. Muriel Mercier-Bonin, directrice de recherche INRAE.
Le plastique, quand il va voyager et se fragmenter dans l'environnement, il va pouvoir se charger en différents types de polluants, des polluants environnementaux, qui, une fois qu'ils vont être inhalés ou ingérés, ils peuvent aussi avoir leur dangerosité propre liée à des phénomènes en fait de libération de ces polluants dans l'organisme. Il peut y avoir des conséquences délétères aussi pour la santé des animaux, pour des plantes et in fine de l'humain en tant que membre de cette grande famille des organismes vivants.
C'est la fameuse approche One Health, une seule santé humaine, animale et environnementale, puisque l'ensemble du vivant est interconnecté. Ce cinquième et dernier tour de négociation à Busan n'est donc pas uniquement une question de pollution plastique, mais également de santé publique, Andréane.
Merci Igor Strauss, c'était la question d'environnement sur RFI. Allez, un petit peu de musique avant le prochain journal, c'est sur notre playlist ce mois-ci à retrouver sur toutes les plateformes IBBO, Sound Machine et le titre Honeybee. Par IBBO Sound Machine, à retrouver sur notre playlist RFI ce mois-ci. Vous restez avec nous dans une minute, le journal.
Santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
prévention, prise en charge du paludisme, des spécialistes répondent à vos questions.
Demain,
prendre soin de ses cheveux et de son cuir chevelu.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 71 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
recherche d'emploi, si vous êtes jeune diplômé, nos spécialistes vous conseillent.
Demain,
autopsie du monde enseignant en France, 4 ans après l'assassinat de Samuel Paty.
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 337 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.